L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Pourquoi Visage de la Shoah est un film de Jean-Marie Montalier et Stéphane Kraus qui sera projeté ce dimanche 16 mars à 16h au Cinéma Vox de Strasbourg dans le cadre de Shalom Europa. Et pour nous en parler, un des co-réalisateurs, Jean-Marie Montalier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le cadre des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, vous êtes allé à la recherche du pourquoi. Alors, pourquoi cette haine? Pourquoi cette instrumentalisation de la mort? De quelle façon vous êtes allé à la recherche de ce pourquoi? Et justement, pourquoi vous vous posez cette question de pourquoi et pas de comment?
Alors, tout simplement parce que le pourquoi... Moi, je travaille sur la Shoah depuis une dizaine d'années et je ne suis pas juif. Je suis grand reporter, écrivain. J'ai fait tout un tas de reportages dans des situations difficiles. J'ai couvert des conflits, j'ai couvert deux génocides au Rwanda et en Bosnie. Et on m'a jamais demandé pourquoi je le faisais. On m'a jamais dit, c'est bizarre, t'es pas Tutsi. Pourquoi tu fais ce sujet? C'est bizarre, t'es pas afghan. Pourquoi tu vas en Afghanistan, etc. Et quand j'ai commencé à travailler sur la Shoah, on m'a demandé pourquoi. Pourquoi? Puisque tu n'es pas juif. Et en fait, cette question m'a bouleversé. On ne m'avait jamais demandé pourquoi. Et ce pourquoi a finalement m'a obsédé et finalement s'est transformé en mille pourquoi. Pourquoi on me pose cette question? Pourquoi la haine des juifs? Pourquoi l'indifférence face à l'antisémitisme? L'indifférence du plus grand nombre, sans laquelle rien ne serait possible. Évidemment, non pas que les indifférents soient coupables du pire, mais ils laissent le pire advenir. Et le comment Stéphane Kraus a déjà fait un film, lui, sur la Shoah, moi aussi. On l'a déjà traité, le comment. Donc, il nous paraissait plus important de se demander pourquoi, parce que ça aussi interroge les gens et ça les secoue peut-être aussi dans leur indifférence.
Et justement, aujourd'hui, en 2025, avec une montée de l'antisémitisme exponentielle, c'était l'importance, l'urgence de faire témoigner ces rescapés de la Shoah, qui sont clairement en fin de vie, il faut le dire. Il y avait une urgence pour vous de prendre leur parole?
C'est primordial. C'est primordial. Alors, vous parlez de l'antisémitisme exponentiel en 2025. Malheureusement, c'est exponentiel depuis des années. Évidemment, on en parle beaucoup depuis le 7 octobre.
C'est très décomplexé aujourd'hui.
C'est très décomplexé, mais enfin, on a quand même fusillé des enfants dans une école à Toulouse parce qu'ils étaient juifs.
Vrai.
On a massacré à coups de couteau des vieilles dames au prétexte qu'elles étaient juives. On a massacré un jeune garçon, il en a mis parce qu'il était juif. On insulte, on tague des étoiles de David sur les murs, etc. Donc c'est un antisémitisme de plus en plus décomplexé.
On crie à l'intifada dans les rues de Paris et de Strasbourg, bien sûr.
On mélange complètement tout. On mélange antisémitisme, antisionisme. Évidemment, les gens qui prônent cet antisémitisme tortillent. Évidemment, avec le vocabulaire, pour pas être sous le coup de la loi, mais on voit exactement ce qu'ils veulent exprimer. Donc l'antisémitisme en France, on sait où ça mène depuis 1945, ça mène à Auschwitz. Maintenant, c'est aussi important de se demander, nous, les non-juifs et les juifs, où ça commence. Est-ce que ça commence au premier dérapage politique de Mélenchon ou de Rima Hassan, à la première blague de Dieudonné, à la première insulte? Et là, il faut absolument dire stop. Il faut dire stop parce qu'on sait où ça peut mener.
Et pourtant, aujourd'hui, alors c'est pas évidemment le sujet de cette interview, et pourtant aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire et de la justice de ces dérapages, comme vous dites.
C'est terrible parce que la loi est un petit peu impuissante, évidemment, puisque aujourd'hui, c'est devenu un discours politique. On importe le conflit israélo-palestinien, on l'importe en France, et donc aujourd'hui, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme non déclaré, mais la loi, pour l'instant, est impuissante, même si de plus en plus de gens, et ça c'est quand même à noter, de plus en plus de gens, vous avez vu la dernière manifestation contre le racisme le 22 mars, l'affiche de LFI est épouvantable, on dirait une affiche des années 40, une affiche anti-juive des années 40. Donc la justice, de plus en plus, et de plus en plus de Français non-juifs commencent à être bouleversés et surtout révoltés par cette dégueulasserie.
Alors, vous avez rencontré une dizaine de survivants de la Shoah. Ils sont âgés aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un sujet avec lequel vous avez échangé ces derniers témoins, la montée de l'antisémitisme aujourd'hui?
Alors, c'est un sujet qu'on n'aborde pas dans le film, parce que on a voulu, notre parti pris, c'était d'arrêter le 27 janvier 1945, c'est-à-dire à la libération d'Auschwitz. Et le récit commence avant-guerre, hein, parce que les témoins qu'on a interviewés avec Stéphane Cross et Nissim Selam, qui nous a aidés en Israël, qui est un photographe qui photographie les survivants de la Shoah depuis 10 ans, c'était aussi que ces témoins-là soient assez âgés au début de la guerre pour pouvoir nous raconter ce que c'était que d'être un enfant juif avant-guerre dans les rues de Paris ou de Varsovie. Donc la montée de l'antisémitisme, les premières mesures anti-juives et puis surtout cette fameuse indifférence dont je vous parlais tout à l'heure. Hors caméra, évidemment, le pogrom du 7 octobre a été sujet, puisqu'on est allé en Israël quelques temps après, quelques semaines après le pogrom du 7 octobre. Donc évidemment, on a parlé de ça, et évidemment, ça les traumatise d'ailleurs, comme ça a traumatisé l'ensemble de la société israélienne, et pour cause, puisque c'était quand même un pogrom à esprit génocidaire. Vous savez, quand on tue des enfants, quand on viole et qu'on tue des femmes, on tue et on viole l'avenir. Donc c'est quand même un pogrom à esprit génocidaire, à volonté génocidaire.
Est-ce qu'ils en ont conscience, ça, aujourd'hui, ces derniers survivants? Ils ont cet accès à l'actualité, et ils entendent les choses, ils ont une analyse juste sur les choses?
Alors, ils ont accès à l'actualité, ils l'entendent. Je ne sais pas s'ils ont leur analyse, je ne sais pas, je ne peux pas la juger, je ne peux pas dire si elle est juste ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça les catapulte 80 ans en arrière. Et en voyant ces images, en entendant ce qu'ils ont entendu, ils revivent ce qu'ils ont vécu dans les rues de Varsovie, de Lodz, et les pogroms en Ukraine ou ailleurs, en Europe de l'Est. Évidemment, ça, c'est pour eux, c'est terrible. Terrible. Ils tous disent, jamais on aurait pensé revivre et revoir ça.
Ces survivants, vous les avez, vous les avez trouvés comment? Ce sont des gens qui ont l'habitude de témoigner, peut-être auprès des scolaires ou dans des conférences?
Alors, quelques-uns des 9 témoins qu'on interviewe sont, notamment les Français, deux ou trois Français sont assez habitués à témoigner, les autres non. Comment on les a choisis? Ce qui était important, vous savez que la Shoah, c'est un événement sans équivalent dans l'histoire du monde, évidemment par l'ampleur du meurtre, 6 millions, mais aussi par sa dimension continentale. Donc ce qui était important pour nous, c'était de retrouver des survivants de toute l'Europe. Alors comme il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur la Shoah, j'ai travaillé en Israël, et en Israël, il y a une maison d'accueil qui accueille justement les survivants de la Shoah, qui sont arrivés à l'indépendance d'Israël quand ils étaient enfants, adolescents, et qui sont originaires de toute l'Europe, de France, mais aussi de l'Europe de l'Est. Donc là, on a pu, si vous voulez, redonner cette dimension continentale à la Shoah, l'intervivant des témoins de toute l'Europe. Et l'autre condition aussi pour nous, si je peux parler de conditions, c'était qu'ils soient adolescents au moment de la Shoah.
Qu'ils aient des réels souvenirs.
Qu'ils aient des réels souvenirs, qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu et non pas de ce qu'on leur a raconté.
Vous avez conscience, vous, d'être dépositaire de cette mémoire et l'importance de ce film?
Alors, si vous voulez, cette question, pardon de vous le dire comme ça, mais en fait, cette question, on me la pose depuis 10 ans, et elle m'horripile un petit peu, parce que nous sommes tous dépositaires, juifs ou non-juifs, de l'héritage de la Shoah. C'est un drame juif, mais c'est un héritage universel, c'est l'héritage de l'humanité. Oubliez ça. Le nier, ça serait comme tuer une deuxième fois 6 millions de personnes. Nous sommes tous les dépositaires de ça. Alors, l'importance, je pense que c'est important d'en parler, il faut qu'on en parle, il y a notre documentaire, il y en a d'autres.
L'importance de la transmission, alors oui.
C'est primordial. Mmh. C'est primordial. Vous savez, on cite Elie Wiesel dans le film qui rappelle que quand on ignore son histoire, on s'expose à ce qu'elle recommence. Donc c'est primordial. C'est primordial qu'on soit juif ou pas, encore une fois.
Alors ces témoignages bouleversants et évidemment bouleversants de véracité, vous le disiez, parce que ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des vécus de chaque personne, sont illustrés avec des images. De quelles images vous vous êtes servi? Il y a une banque de données aujourd'hui, peut-être au Mémorial de la Shoah ou ailleurs?
Alors, on a utilisé quelques images d'archives qui viennent du Mémorial de la Shoah, mais aussi des archives allemandes et des archives américaines. Mais surtout, on interviewe 9 personnages, mais en réalité, Il y a 11 personnages dans le film. Le 10e personnage, c'est la musique. La musique a été interprétée par Elios Azoulay à partir de partitions écrites clandestinement par les déportés juifs dans les camps, partitions qu'on a retrouvées après la guerre. Ça, c'est la musique du film. Et ensuite, le 11e personnage, ce sont les dessins en noir et blanc, qui sont des dessins de Shlomo Seelinger, un artiste, un sculpteur assez connu, et qui lui-même a été déporté. Et après-guerre, il a eu une amnésie totale de plusieurs années. Et le souvenir de sa déportation lui est revenu 6 ans après ou 5 ans après dans ses cauchemars. Et chaque matin, il dessinait ses cauchemars. Et ses cauchemars, c'était évidemment ses souvenirs de la déportation. Et très gentiment, il nous a donné toutes ses planches et ça nous permet d'illustrer aussi le film.
La voix off, interprétée par Charlotte Rampling. Vous lui avez proposé ce rôle très important, cette voix à poser sur un film tel que le vôtre. Elle a accepté tout de suite ?
Immédiatement. Elle a accepté sans nous connaître. Elle ne nous connaissait pas, on ne la connaissait pas. Elle a accepté sans nous connaître, elle a accepté sans hésiter et elle a accepté sans rien nous demander en échange. C'est-à-dire qu'elle l'a fait, elle a pris le temps qu'il fallait. Et elle l'a fait sans rien attendre en échange. Elle a été formidable.
Elle l'a fait gracieusement.
Gracieusement. Et vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité et beaucoup de générosité.
Vous, ce film, ces rencontres, elles ont alimenté des réponses, enfin des questions, des réponses à des questions que vous vous posiez. Aujourd'hui, il y a des réponses que vous n'avez toujours pas trouvées.
Alors, je pense que à la question du pourquoi, il ne peut pas y avoir de réponse. Il ne peut pas y avoir de parce que à l'extermination de 6 millions d'êtres humains, ça n'est pas possible. Un pourquoi, ça serait un début de compréhension, de justification. On ne peut pas comprendre un tel événement. On ne peut pas comprendre un tel événement. En revanche, ce qui est très important, c'est de secouer un petit peu les consciences des gens pour que plus jamais, et là on voit que malheureusement ça n'est pas le cas, plus jamais ça se reproduise. Vous savez, moi j'ai commencé à travailler sur la Shoah il y a des années. À l'époque, je dirigeais un quotidien national et une dame qui s'appelait Mireille Knoll a été assassinée dans des conditions épouvantables. Et le lendemain matin, une radio de grande écoute, une radio nationale, a recensé ce meurtre en disant « la communauté juive sous le choc ». Non, pas la communauté juive, la communauté française sous le choc. La communauté française sous le choc. Et donc là, si vous voulez, ça m'a incité à retravailler, parce que j'avais déjà fait un film, ça m'a incité à retravailler sur la Shoah pour qu'on arrête de différencier la communauté juive de la communauté française. La communauté juive appartient à la communauté française et il n'y a aucune différence.
Vous serez à Strasbourg ce dimanche dans le cadre de la projection de ce film. Vous avez l'habitude, vous, de présenter votre film. Il y a presque une obligation de l'expliquer au plus grand nombre, en espérant évidemment qu'il y ait le plus grand nombre de personnes, et pas uniquement des personnes de la communauté juive qui sont concernées, même si vous le disiez, vous avez tout à fait raison, la communauté nationale doit être concernée. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus fréquemment ?
Alors le plus fréquemment, c'est pourquoi ce film ? Comment on a pu trouver les témoins ? Les questions en fait que vous nous avez posées, et aussi surtout, quelles leçons nous, on a retiré de ces rencontres. Parce qu'évidemment, quand on rencontre 9 survivants d'Auschwitz, on a quand même quelque chose, 2-3 petits trucs à apprendre. Donc ça, c'est vraiment ça. Et aussi, ce qui revient fréquemment, évidemment, c'est comment lutter contre l'antisémitisme. Ça, c'est vraiment la question qui touche. Et alors, vous savez, on a rempli le film est sorti le 27 janvier. On a rempli quand même pas mal de salles de cinéma.
Oui.
Et ce qui nous a touché, Stéphane et moi, et Nissim aussi, lorsqu'il était à Paris, c'est le public n'était pas seulement un public juif, et c'était pas seulement un public de personnes âgées. Il y avait beaucoup de jeunes.
Le pari est réussi, cette transmission-là.
Ah oui, et puis c'est primordial. Donc ça nous a vraiment, vraiment, vraiment touché de voir des jeunes qui avaient de 17-18 ans à 30 ans.
et d'envisager aujourd'hui ce film, quand il aurait été exploité en salle, d'aller le proposer peut-être aux établissements scolaires au moment où ils abordent justement ce chapitre de la Shoah en histoire?
Alors c'est évidemment l'objectif. Dès le départ avec Stéphane, quand on a décidé de faire ce film pour le cinéma, on s'est dit évidemment que la priorité c'était d'en faire un outil pédagogique pour les lycées et les collèges, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a volontairement choisi de ne pas mettre d'images d'archives trop dures dans le film. On a déjà plusieurs lycées, plusieurs collèges qui nous ont demandé le film. Hier, on était dans un lycée privé à Paris, aux Aratora, qui a vu le film. On a fait un débat avec une centaine d'élèves. Il y a aussi des lycées privés catholiques qui nous demandent le film, et des lycées publics qui nous demandent le film. Évidemment, on dit oui immédiatement, et évidemment, on se déplace pour parler avec les élèves. Ou Stéphane, ou moi, ou nous
bien
deux.
Sûr. Très très longue vie, je vous le souhaite, à ce film nécessaire. Pourquoi ? Visage de la Shoah. Donc, c'est un film de Jean-Marie Montali que j'ai au téléphone. Merci infiniment d'avoir échangé avec nous autour de ce film. Vous serez avec le co-réalisateur Stéphane Kraus ce dimanche 16 mars au Cinéma Vox de Strasbourg dans le cadre de Shalom Europa. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions.
Moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind?
On était 200 par wagon. Les gosses, ils étaient à la hauteur du nombril des adultes. On était entassés comme... Je ne peux pas vous décrire.
On étouffait là-dedans, hein, la chaleur qu'il faisait. On n'avait rien à manger.
והמשפחה שלי הצליחה להגיע בחיים לאושוויץ.
Vous savez, les morts là-bas, on les prenait dans une charrette, la tête elle pendait et les pieds de l'autre côté.
Une fois déshabillés, on nous pousse dans la chambre à gaz. J'ai connu l'enfer de mon vivant.
You were like an insect. You could... Stop and trot on you whenever you want to go by.
Und der Regen rinnt, und der Regen rinnt.
לא הסתכלו. ילדים קטנים. הם רצו רק לסוף להשמיד אותם.